Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous le savez, la tradition, pour dire ça comme ça, veut que quelques dimanches par année, nous n'ayons pas une prédication, mais plutôt un enseignement. Et donc, je vais recommencer maintenant un nouvel enseignement. Rappelez-vous que le dernier, c'était le monde spirituel qu'on a terminé en juillet. Et maintenant, je vais aborder un autre sujet. Et pour rappel, pour ceux qui étaient au week-end d'église, j'avais dit que qu'il restait deux vitamines à voir. Et bon, voilà, c'est les vitamines restantes, mais c'est pas des vraies vitamines. Vous allez voir que c'est pas du tout des vitamines comme on, voilà, comme celles qu'on a vues. Et donc là, je vais commencer celle-ci, et ensuite plus tard, je ferai l'autre vitamine. Alors, commencez surtout par vous dire que, en tout cas aujourd'hui, je crois que tu devras m'aider parce que il a passé une fois, mais après il ne le passe plus. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet le plus délicat de la vie d'une église. Après, j'aborderai un autre sujet encore délicat, mais celui-ci, c'est vraiment le plus délicat. Mais vous, ça va, vous êtes des gens bien, vous allez comprendre ça sans difficulté. Et donc, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, mais l'objectif, c'est juste qu'on ait un survol. Vous allez voir qu'on ne va pas aller dans les détails, mais au moins, on aura ces éléments-là en tête. OK. Voilà. Donc, je vais parler de la discipline des dons financiers et des dons matériels dans la vie chrétienne. Alors, je dis que c'est un sujet délicat parce que c'est un sujet qui souvent hérisse les poils des gens et c'est pas un sujet dont les gens aiment parler. C'est un sujet qui semble tellement pas spirituel, tellement pas important, tellement pas central qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va passer du temps à parler de ça? Et puis aussi surtout, c'est un sujet qui touche à quelque chose qu'on aime beaucoup, pas vous, mais beaucoup d'êtres humains sur la planète, beaucoup nous aimons nos petits billets, nos petits euros, nos petits comptes en banque. Et dès qu'on parle de ça, dès qu'on touche ça, parfois ça nous stresse, ça nous met mal à l'aise, mais nous allons quand même le faire. OK. Alors pourquoi aborder ce sujet? Vous n'allez pas forcément bien voir parce que la police n'est pas assez forte. Mais bon, l'objectif, c'est plus les titres que si vous, pour que vous puissiez suivre. Voilà. Pourquoi aborder ce sujet? Premièrement, parce que la Bible en parle énormément. La Bible parle énormément de l'importance des dons, de l'importance des dons que l'on fait à Dieu, des dons que l'on offre à Dieu. Et vous allez voir qu'on va voir que depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de ça. C'est un sujet dont la Bible parle beaucoup. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, certains commentateurs des textes bibliques disent que dans le Nouveau Testament, on peut, selon certaines répartitions, considérer que l'on parle parfois plus d'argent que de certains sujets spirituels. La Bible parle énormément d'argent. Elle parle énormément des biens matériels. Et donc, si la Bible en parle beaucoup, c'est important que nous puissions en parler. Deuxièmement, parce que c'est une discipline essentielle de la vie chrétienne. C'est essentiel dans la vie chrétienne de savoir que l'on doit offrir à Dieu. C'est essentiel de savoir qu'on doit prier, qu'on doit lire la Bible, qu'on doit vivre une vie d'église, on doit savoir connaître le Saint-Esprit, connaître Jésus, connaître tout ça, mais on doit aussi connaître ces réalités matérielles-là. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Et dans la vie chrétienne, c'est un élément tout à fait essentiel. C'est pas périphérique, c'est pas un truc en plus, c'est au cœur même de la vie chrétienne et de l'évangile qui nous est enseigné. Pourquoi aborder ce sujet? Également parce que nous avons besoin d'avoir une conception biblique autour de la question de l'argent et nous avons besoin de comprendre la pensée de Dieu sur l'argent. Le problème que nous avons, nous chrétiens, sur plein de sujets, c'est que nous pensons certains sujets plus comme le monde en parle que comme Dieu en parle. Nous voyons l'argent comme le monde le voit, nous voyons le travail comme le monde le voit, nous voyons le couple comme le monde le voit, alors que nous sommes appelés à avoir une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, de telle sorte que nous voyons et que nous pensions ces choses-là comme Dieu les pense. Que nous voyons ces choses-là comme Dieu les pense. Et donc nous sommes appelés à voir l'argent comme Dieu le voit. à utiliser notre argent comme Dieu veut que nous l'utilisions, à concevoir l'utilisation et la gestion de nos biens comme Dieu le veut. Et sinon, malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous naviguons et nous fonctionnons comme ça un peu à la vue et nous ne nous rendons pas compte que nous avons un mode de vie qui est plus mondain que chrétien, en fait. Nous vivons comme tout le monde. Nous avons des comptes bancaires comme tout le monde, nous utilisons notre argent comme tout le monde, alors que Dieu veut nous enseigner sur ce sujet-là. Et vous savez aussi, c'est un sujet très important. Ah oui, on peut continuer, passer à la suivante, oui. C'est un sujet important parce que c'est un sujet éminemment spirituel. Parce que la cupidité, c'est une idole qui capture beaucoup de cœurs. Vous savez que la Bible dit que la cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie et c'est l'idolâtrie la plus puissante de ce monde. Nous sommes dans un monde qui est idolâtre de l'argent. Et pas seulement les grands dirigeants, parce que ça, c'est vous, si vous aimez bien dire ça. Mais oui, de toute façon, les grands dirigeants dans leur bureau, les politiciens, ils aiment l'argent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que sur le pays, comment on appelle ça, l'index des PIB et tout ça, des revenus par habitant, c'est ici qu'on a appris ça, non? C'est pas ici? Si, mais c'est la semaine passée. C'est la semaine passée. Le 15e pays, la Belgique. Le 15e en termes de revenus. Nous sommes un pays riche, hein? Nous sommes pas un pays pauvre. Et donc, aussi, sachez que, alors vous allez dire, mais moi c'est pas mon cas, mais sachez, comme ça vous êtes au courant, que les comptes bancaires des Belges sont très bien remplis. Nous ne sommes pas pauvres comme nous aimons bien le dire. Hein, nous, j'ai pas su aller en vacances cette année, et donc on est les plus pauvres du monde. Sauf qu'il y a des gens, ils ont même pas de quoi manger, quoi. Donc nous sommes pas du tout les plus à plaindre. Et comme nous sommes un pays riche, eh bien évidemment, nous avons tendance à nous attacher à l'argent plus que les autres. Et donc c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes sont au service de Mammon. Et rappelez-vous, il y a quelques années, on avait parlé de Mammon pendant longtemps, et ça peut aussi atteindre l'Église. L'Église aussi peut être au service de Mammon. Elle peut servir l'argent, elle peut fonctionner par rapport aux intérêts financiers, et nous devons veiller à cela. Et quelle est notre relation à l'argent? C'est une question essentielle de la vie chrétienne. Quelle est ma relation à l'argent? Comment je conçois l'argent? Comment je vis avec l'argent? Est-ce que c'est un sujet qui me crispe? Hein, il y a certaines églises, quand vous parlez de ça, il n'y a plus personne. et c'est un sujet extrêmement délicat pour les pasteurs. Moi, j'ai facile à parler de ça, parce que je ne suis pas salarié par l'église. Donc vous n'allez pas soupçonner que je dis ça parce que j'ai envie d'avoir un plus gros salaire. Mais imaginez, ceux qui sont salariés par l'Église, ils vont comme ça quand ils doivent parler de ça. Parce qu'ils se disent, si jamais je dis ça, c'est la fin du monde, ils vont dire que... Voilà. C'est un sujet qui parfois crispe les chrétiens. Est-ce que nous concevons l'argent comme la Bible le conçoit? Est-ce que l'argent est un maître ou un seigneur dans notre vie? Ça, c'est une question essentielle. Est-ce que l'argent est maître ou serviteur dans ma vie? Est-ce que l'argent est le maître de ma vie ou est-ce que c'est un serviteur dans ma vie? Notamment, si l'argent est un serviteur, ben on peut en parler sans difficulté, on peut parler d'argent comme on parle de tout et n'importe quoi, parce que c'est juste un serviteur, c'est rien l'argent pour moi, c'est juste quelque chose qui m'est utile pour. Est-ce que nous avons un attachement malsain au Seigneur? C'est une question éminemment spirituelle. En réalité, notre façon de gérer notre argent dit autant de notre foi que notre vie de prière. Si on regarde comment tu gères ton argent, on a un aperçu de ce qui est important pour toi et de à quelle place tu mets Dieu dans ta vie et de comment tu conçois ta relation à Dieu. C'est un sujet très spirituel. C'est un sujet aussi important parce que l'Église locale doit avoir une clarté sur ce sujet. Alors, vous voyez que c'est un sujet important et la Bible nous dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de connaissances. Et souvent, c'est un sujet sur lequel nous manquons de connaissances. Nous ne savons pas. Alors, nous faisons un petit peu au petit bonheur la chance et nous sommes pris, du coup, dans des fonctionnements qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, l'Église, en particulier, est un lieu où on doit beaucoup parler de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu où nous apportons nos offrandes. C'est le lieu où nous offrons à Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il offre à Dieu, ben, il va pas donner ça à son voisin ou à son frère, à sa sœur. Il va, en général, apporter dans l'Église. Et donc, l'Église doit avoir un enseignement clair sur ce sujet. sujet-là, parce que c'est là qu'il faut gérer les biens de Dieu, et que c'est là que nous devons faire preuve de sagesse, d'intelligence dans ces choses-là. Alors c'est un sujet important aussi, et vous devez le savoir, c'est que les dons matériels et les dons financiers sont un moyen puissant, ou le grand moyen, de croissance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu grandit à mesure de nos dons financiers et matériels. Et c'est un truc qu'il faut savoir. Le royaume de Dieu ne grandit pas seulement par nos prières. Parce que nous sommes sur terre. Et sur terre, le royaume de Dieu se construit avec des choses concrètes. Hein, on a fait des travaux dans l'église, les travaux ne se font pas avec des prières. Les travaux ils se font avec de l'argent. Le royaume de Dieu avance avec de l'argent. Quand on donne des prospectus aux non-croyants, on leur donne des prospectus qu'on a achetés. Quand on fait des crêpes, on achète. Tout ça se fait avec des biens financiers. Donc le royaume de Dieu se fait avec nos ressources financières et matérielles. Et une autre raison pour laquelle c'est un sujet important, et on en parle très peu dans nos églises, c'est que les dons financiers, les dons matériels sont une grande source de bénédiction dans nos vies. Alors on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a toujours peur de tomber dans l'évangile de prospérité qui consiste à dire que ta relation avec Dieu dépend de ton argent, plus tu donnes, plus tu es béni, etc., etc. Mais en même temps, c'est une réalité biblique que nous devons connaître. C'est que Dieu nous bénit aussi au regard de comment nous gérons son argent pour lui. Et il y a des moments parfois où nous sommes financièrement en complexité ou en difficulté, mais ça peut aussi venir du fait que nous ne donnons pas à Dieu ce à quoi il a droit. Et donc c'est quelque chose d'important aussi, c'est que la Bible nous dit que c'est un moyen de bénédiction dans nos vies. Alors, je vais ici venir à l'histoire du donner à Dieu. Alors, je vais la faire courte parce que sinon on va y rester jusqu'à demain. Mais c'est quand même juste pour que vous ayez une idée du fait que donner à Dieu, c'est pas quelque chose avec lequel on s'est levé hier matin. C'est pas l'apôtre Paul qui s'est réveillé un jour et qui s'est dit « Ah, et si on disait qu'il faut donner à Dieu ?» C'est très ancien. Alors, on peut passer. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous voyons des personnes qui se tournent vers Dieu pour lui offrir. Dès les premiers chapitres de la Bible, les gens ont à cœur d'offrir des choses à Dieu. Et le don à Dieu est en fait un élément essentiel dans la relation entre l'homme et Dieu. Dans la Bible, on voit que les hommes s'approchaient de Dieu pour lui offrir des choses. En fait, la relation avec Dieu n'était pas seulement spirituelle, elle n'était pas seulement dans les mots, elle n'était pas seulement dans la prière ou dans l'écoute de Dieu, mais c'était aussi matériel. On s'approchait de Dieu avec des choses. Et cela était quelque chose de fondamental. Alors quel exemple on peut donner pour vraiment dire que c'est les premiers chapitres de la Bible? C'est l'exemple de Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4, qui tous deux vont apporter des sacrifices à l'Éternel. Alors l'un va apporter les produits du sol et d'autre va apporter les premiers-nés du troupeau. Alors insistons sur le fait qu'en Genèse 4, il n'y a pas encore la loi de Moïse. Il n'y a pas de loi. Et donc intuitivement, les gens qui marchaient avec Dieu savaient qu'on s'approchait de Dieu en lui offrant des choses. Les gens savaient qu'on ne venait pas devant Dieu comme ça, mais qu'on devait offrir des choses à Dieu. Et on se souvient que dans la Bible, vous voyez que même les idolâtres, ceux qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel, apportaient des offrandes. Ce n'était pas juste réservé à ceux qui connaissaient Dieu. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et donc, la relation que nous avons avec Dieu, selon la Bible, va automatiquement nous conduire à lui offrir. Nous allons offrir à Dieu. Ok. Alors, on peut passer. Alors, on peut donner plein d'exemples pré-mosaïques, c'est-à-dire des exemples qui sont antérieurs à la loi de Moïse, pour montrer que ce n'est pas juste Moïse qui est venu avec ça. Dans Genèse 8, verset 20, à un moment donné, il est dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Donc ça, c'est au moment de la sortie de l'arche. Hein, donc le déluge a lieu et à un moment donné, ils sortent de l'arche. Et une fois qu'ils sortent de l'arche, il nous est dit que Noé a bâti un autel à l'Éternel et qu'il lui a offert un certain nombre de choses, et en particulier des animaux. Alors ce verset est important parce que c'est la première fois dans la Bible qu'on trouve une expression, qui est une expression qui nous suit dans tout l'Ancien Testament, c'est l'expression « bâtir un autel à l'Éternel ». Et ça, vous allez la retrouver partout. Bâtir un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il vient devant Dieu, il présente un certain nombre de choses qu'il offre à Dieu. Et donc, en fait, on voit que les gens qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu, eh bien, dans leur relation avec Dieu, il y a aussi cet aspect de « je bâtis un autel à l'Éternel, j'offre des choses à l'Éternel, je fais une offrande particulière à Dieu, je dispose un espace dans lequel je peux donner à Dieu. » Ok ? Alors, c'est aussi vrai dans les textes de Genèse, où là, on voit plein d'exemples, on peut en prendre trois, hein. Genèse 12, 7, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Donc ça, c'est Genèse 12, 7, pour ceux qui ne voient pas, désolé. Verset qui suit, « Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. » Genèse 13, 18, « Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. » Donc vous voyez quand même que ça revient tout le temps, et on pourrait multiplier les exemples. Ok ? Autre exemple aussi, c'est avec Jacob, Genèse 35, 14, où il est dit « Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Donc Jacob aussi, comme Abraham, à un moment donné, offre à Dieu, il offre un sacrifice à Dieu. Dans Exode 10, 25, Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. » Donc en fait, c'est Moïse qui s'adresse à Pharaon et qui lui dit, « Tu nous donneras tout ce qui est nécessaire pour aller offrir à Dieu. » Rappelez-vous que quand Moïse dit à Pharaon, « Nous voulons quitter l'Égypte pour aller rendre un culte à l'Éternel. Rendre un culte, ça signifie offrir des sacrifices à Dieu. Raison pour laquelle il lui dit, tu nous offriras et tu nous donneras tout ce qui est nécessaire. Donc, on se rend pas compte, mais quand on dit servir Dieu, c'est aussi ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est aussi offrir. Rendre gloire à Dieu, c'est aussi offrir des dons matériels qu'on lui offre. Alors, on va parler ici de deux types d'offrandes. L'offrande faisait vraiment partie intégrante de la foi du peuple de Dieu. Et donc, on va parler de deux types d'offrandes, mais c'est assez simple à comprendre. Il y a premièrement les sacrifices, qui sont donc des dons sanglants faits à Dieu, donc où on offrait un animal à Dieu. Bon. Donc, on immolait des animaux qu'on offrait à Dieu. Donc, on offrait des taureaux, des bœufs, des vaches, des bœufs, des vaches, des béliers, des brebis, des boucs, des chèvres, et même parfois des pigeons et des tourterelles. Hein, donc ça, c'était les offrandes que l'on faisait, des offrandes d'animaux, hein, des offrandes de choses concrètes, des offrandes de choses matérielles. Et puis, il y a les offrandes, à proprement parler, qui sont des offrandes des dons non sanglants. Donc à ce moment-là, on n'offre pas des animaux, mais on offre les produits du sol, les récoltes, toutes sortes de choses. Ok. Alors, exemple d'offrandes que l'on trouve dans la Bible, pour donner des exemples, hein, et là on est au temps mosaïque, c'est-à-dire on est dans la loi de Moïse. La loi de Moïse ordonne un certain nombre de choses qu'il faut offrir. Prenons l'exemple de l'offrande de farine. Donc ça, c'est une offrande spécifique, une fleur de farine sans levain qui était offerte à Dieu, et les sacrificateurs aussi s'en nourrissaient. On y ajoutait de la farine, de l'huile, de l'encens, du sel. Un autre exemple, la libation de vin. On répandait du vin devant Dieu. Donc sur l'offrande de farine, on faisait une libation de vin. D'accord ? Donc, on prenait toute sa cave à vin et on l'offrait à Dieu. Le vin qui est là depuis 15-20 ans. Voilà. C'est terrible, hein, ça. On l'offrait à Dieu. Évidemment, toutes ces choses-là, pour nous, ça ne semble pas forcément valeureux. Mais dans, à l'époque, évidemment, quand on t'offre un bœuf, c'est pas rien. C'est quelque chose de valeur, quoi. Et aussi, prenons l'exemple des prémices des récoltes et du bétail. Alors, les prémices, c'est vraiment les premières récoltes, les toutes premières choses que l'on récoltait, ou les tout premiers nés de notre bétail qu'on offrait à Dieu. Les prémices. Les premières choses, les premières récoltes qu'on offre à Dieu. Ok. Alors, voilà l'exemple pour les prémices. Dans Exode 22, 29 à 30, il est dit « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. » Donc, les premières choses, les premières récoltes, les premières choses que l'on a, on les donne à Dieu. Les premières choses que l'on récolte, on les donne à Dieu. Exode 23, 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Voilà. Donc les premiers fruits que tu as, tu les offriras à Dieu. En priorité, dans ce que tu reçois, tu donnes à Dieu. Ok. Mais aussi, on a d'autres exemples d'offrandes, des offrandes de pain sans levain, des offrandes de gâteaux, des offrandes de galettes, des offrandes d'épis rôtis. Enfin bon, voilà, vous avez des exemples infinis. Alors, autre exemple de ce qui était offert, c'était donc la dîme des récoltes et du bétail, qui était offerte en offrande à l'Éternel et qui servait à l'entretien des Lévites. Donc, on offrait cela pour l'entretien des Lévites. Et tous les 3 ans, il y avait aussi une part qui était donnée à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Donc il y avait une dîme particulière pour les pauvres, pour les personnes en difficulté. Et elles étaient offertes en gestes d'élévation. On offrait à Dieu selon un geste particulier qui consiste à agiter, à balancer l'offrande et à présenter l'offrande à Dieu sous un geste particulier. Alors, commençons par détailler ça. Ça, c'est quand même important que vous ayez en tête parce que c'est un truc qu'on retrouve après et dont on devra discuter en détail. Premier type de ces offrandes-là, c'est ce qu'on appelle c'est la dîme ou la dîme ordinaire. Donc la dîme ordinaire, c'est l'offrande de base du peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu devait offrir la dîme ordinaire. Donc la dîme de base. La dîme de base. Ça signifie 1/10 de tout le bétail et de tous les produits de la terre. C'est la signification du mot dîme, c'est 1/10. Donc on donne à Dieu, il donnait à Dieu 1/10 de leur récolte ou 1/10 de leur bétail. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. En fait, l'idée de la dîme dans la Bible, c'est que ce 1/10 des choses que les gens recevaient, ça appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous voyez ce qui est écrit ici, c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose qui est mise à part pour Dieu. D'accord ? La dîme permettait de servir, de payer les sacrificateurs. Et vous connaissez aussi le texte de Malachie, chapitre 3, qui dit qu'en fait, il était considéré que celui qui ne donne pas sa dîme vole à Dieu. Donc, ne pas donner sa dîme dans la Bible, c'était voler à Dieu, puisque ça appartient à Dieu. C'est pas à moi, en fait. C'est une part qui est consacrée à l'Éternel et que je rends à Dieu. D'accord ? Et donc, dans Malachie 3, vous voyez ce passage où on dit, celui qui vole à l'Éternel, mais celui qui vole à l'Éternel, c'est celui qui retient ce qui appartient à Dieu, ce qui doit revenir à Dieu. Ok. Alors, une autre dîme. J'ai parlé de la dîme ordinaire, d'accord ? Maintenant, c'est la dîme spéciale, c'est la dîme des réjouissances ou la dîme des festivités. La dîme des festivités, c'est une dîme qu'on offrait une fois par an, une fois qu'on était arrivé en terre promise, c'est la dîme des réjouissances. Et donc, une fois par an, on offrait une dîme spéciale qui était offerte en compagnie de la famille d'Israélites, des serviteurs, des sacrificateurs. On faisait une fête avec, hein, c'était vraiment quelque chose de festif et tout ça. Et puis, on se mettait tous ensemble et on offrait ensemble la dîme de la réjouissance une fois par an dans la grande célébration. OK ? Donc, vous voyez déjà que là, ça nous fait donc 10% de dîme ordinaire. Et plus la dîme de la réjouissance, ça fait encore 10% de plus, ça fait déjà 20%. Alors en fait, il faut comprendre que la dîme, ça c'est vraiment un truc important à comprendre, en Israël, la dîme était obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas réellement, c'est pour ça qu'on, c'est une offrande, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit les dîmes et les offrandes. Souvent, parce que la dîme, c'est pas vraiment une offrande. C'est une offrande, mais c'est pas une offrande volontaire. C'est une obligation qu'avait le peuple de rendre cette partie-là à Dieu. OK. Et ensuite, il y a celle dont je viens de parler, c'est la dîme des pauvres. La dîme des pauvres, c'est la dîme qui était offerte une fois tous les 3 ans, où il est dit, au bout de 3 ans, tu sortiras, tu peux revenir à celle d'avant ou c'est moi qui... Okay. Ah, c'est moi. Ok, bon. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras de tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Vous voyez un peu ce que je disais? Afin que l'Éternel te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. D'accord? Donc ça veut dire que c'est aussi une source de bénédiction. Mais du coup, une fois tous les 3 ans, il y avait cette dîme qui était destinée aux Lévites, mais aussi à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et donc c'est une offrande qui avait une dimension davantage sociale. Et donc, elle est donc donnée sur les revenus de la 3e année. Alors certains ont calculé, moi je les crois, ils disent que ça pouvait du coup amener les Israélites à donner 23% de leurs revenus en termes de dîme. OK ? Mais c'est effectivement un calcul qui est logique. Et ensuite, il y a, en plus des dîmes, il y a ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Alors, les dîmes sont des choses qu'on offre automatiquement à Dieu. Les offrandes volontaires sont des choses qu'on offre en plus. C'est vraiment chacun de bon cœur qui décide de donner en plus à Dieu, librement, selon son cœur, sans raison, enfin, par amour pour Dieu. Et donc, dans Exode 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Dieu ne veut pas qu'on lui offre par contrainte, Dieu ne veut pas qu'on lui offre par obligation, mais il parle de l'offrande que l'on fait de bon cœur. Donc, voilà, je fais cette offrande-là de bon cœur, pour Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que j'aime sa volonté, parce que j'aime sa gloire, parce que j'aime son plan. OK. Alors, les sacrifices... Donc, je vais passer très vite, parce que voilà, l'idée, là, c'est vraiment que vous ayez juste une idée des grands... Chose. Les sacrifices, ben, il y avait déjà les holocaustes, qui étaient vraiment des sacrifices entièrement consumés, qu'on brûlait entièrement et que l'on offrait à Dieu, et le parfum plaisait à Dieu. Il y avait les sacrifices d'expiation, pour lesquels le sang des animaux était répandu sur l'autel, autour de l'autel, etc., etc. Et les sacrifices d'expiation étaient davantage pour les fautes commises envers Dieu. Donc quand on voulait se repentir d'une faute commise envers Dieu, on offrait le sacrifice d'expiation des péchés. Et ensuite, il y a le sacrifice de culpabilité, qu'on appelle aussi le sacrifice de réparation, qui est un sacrifice qui concernait davantage les fautes que l'on commettait vis-à-vis de son prochain. Et donc, à l'occasion du sacrifice de réparation, eh bien, il y avait aussi une restitution à la personne lésée d'un certain nombre de choses. Le prêtre aussi restituait à la personne lésée les choses. Donc, par exemple, lors d'un vol, mais il y avait non seulement le sacrifice que l'on offrait, mais aussi on rendait à la personne ce qu'on lui avait volé. Et ensuite, il y a le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, c'est le sacrifice que l'Israélite faisait pour différentes raisons, mais le nom le dit bien, c'est le sacrifice d'action de grâce. C'est le sacrifice de remerciement. C'est le sacrifice pour dire merci. C'est un geste qui dit merci à Dieu. Premièrement, donc, c'est un geste que l'on posait en reconnaissance de bénédictions particulières. Quand Dieu faisait quelque chose d'extraordinaire, quand Dieu délivrait le peuple, quand Dieu faisait des délivrances, quand Dieu exaucait une prière, on lui faisait un sacrifice d'action de grâce. Je vais m'approcher de Dieu et je vais lui offrir quelque chose pour lui dire merci. Et donc, l'action de grâce, ce n'est pas juste avec les blabla. C'est aussi avec des gestes au travers desquels on dit merci à Dieu. Et il peut aussi arriver parfois qu'il nous arrive des choses dans notre vie où on voit en particulier la main de Dieu et on veut lui dire merci. Alors on peut effectivement dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, mais on peut aussi, comme dit la Bible, bâtir un autel. Seigneur, je te dis merci dans un geste que des choses que je t'offre, je te dis merci, je te rends grâce. Et ce geste manifeste la profondeur de l'action de grâce que nous avons vis-à-vis de Dieu. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de bien, par exemple bon, pas gagner au loto, parce que ça, voilà, mais ça pourrait être...
La guérison,
voilà, bon exemple. Ça peut être, voilà, être se retrouver guéri d'une chose alors qu'on s'y attend pas, alors qu'on n'a pas. Et on dit merci Seigneur, et on se contente pas de dire merci Seigneur parce que tu m'as guéri, mais on dit merci Seigneur parce que tu m'as guéri, et en plus de ça, je t'offre un sacrifice d'action de grâce. Je sais que ça perturbe notre façon de penser, hein, parce que nous, on croit que Dieu se réjouit simplement d'entendre notre petite voix, et c'est vrai, c'est très bien, mais vous-même, est-ce que vous vous satisfaisez de ça, de la petite voix de quelqu'un pour vous dire qu'il vous aime bien? Quand vous n'êtes pas bien, en difficulté, si votre mari vous envoie un message, je te soutiens, et qu'il ne fait rien. C'est facile, hein, ça, d'envoyer des mots. C'est facile d'imaginer que quelqu'un... on pourrait faire ça, imaginer... Anthony, mais est-ce qu'il est là, Coralie est là. Imaginez Anthony et Coralie à la fin du culte, leur voiture démarre pas. Ils sont là devant leur voiture tous les deux, leur voiture démarre pas. Et nous aussi, on sort. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, la voiture ne démarre pas. Oh là là, vous avez tout notre soutien. Et chacun passe comme ça. On est là de tout cœur avec vous. Et puis après, arrivé à la maison, vous lui envoyez un petit SMS. En tout cas, vraiment, je te rappelle que... Voilà. Aimer, c'est pas juste des blabla. Hein. Aimer, c'est aussi des gestes. Et c'est aussi avec Dieu. Avec Dieu aussi. Et vous savez aussi que même vous, personnellement, ben vous êtes en particulier touché par des gestes qui coûtent quelque chose à la personne qui vous le donne. D'où le terme « sacrifice ». On est en particulier touché quand quelqu'un pose un acte où on se dit ben « en fait, c'est un sacrifice ». Quand vous dites je vais aller te chercher ton meuble à Anvers parce que tu déménages et tu as besoin, je vais aller le chercher à Anvers, je vais le ramener chez toi, je vais le monter dans ta chambre. Et ça coûte quelque chose. C'est toute une journée. Aller à Anvers, prendre le meuble, le mettre dans la camionnette, revenir, le monter par les escaliers, remonter les meubles. C'est toute une histoire. Mais c'est un sacrifice que l'on offre à quelqu'un. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des moments dans lesquels on peut aussi exprimer la reconnaissance à Dieu par un geste très particulier. Alors, deuxièmement, on offre aussi des sacrifices à Dieu pour s'acquitter d'un vœu ou pour obtenir son aide. Quand on avait besoin d'une intervention de Dieu, une intervention spécifique de Dieu, il arrivait que les gens aussi bâtissent des autels devant Dieu, qu'ils offrent quelque chose pour demander la grâce de Dieu. Mais aussi, les sacrifices d'action de grâce étaient offerts pour simplement exprimer notre amour et notre adoration envers Dieu. Donc là, ce n'est pas vraiment par rapport à quelque chose de particulier, c'est juste vraiment « je t'aime, Seigneur ». Je t'aime et donc je te donne, je t'aime et donc je t'offre. D'accord ? Et puis dernièrement, les sacrifices étaient aussi, d'action de grâce étaient aussi offerts pour renouveler son alliance avec Dieu, pour reprendre un nouveau départ avec Dieu, pour se réengager avec Dieu. Il arrivait aussi que les personnes offrent des sacrifices d'action de grâce. Ok. Alors, la sacrificature dans la nouvelle alliance, vous avez compris que tout cela doit nous enseigner d'une certaine façon. Mais bien évidemment, dans la nouvelle alliance, il y a des choses particulières que nous devons retenir et qui doivent guider notre façon de comprendre tous ces dons. Alors premièrement, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé dans cette église, le fait qu'effectivement toutes ces lois du Premier Testament sont l'ombre des choses à venir. Elle nous annonce les choses à venir, elle prépare les choses à venir. Ok. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus un sacrificateur humain vers lequel nous devons apporter des offrandes, nous n'avons plus d'animaux à apporter. On a parlé tout à l'heure du sacrifice d'expiation, donc pour le pardon des fautes envers Dieu. Eh bien, ce sacrifice s'est terminé puisque Jésus a payé cette faute-là. Son œuvre à la croix a expié à tout jamais nos péchés. Donc on n'a plus à apporter ça. On n'a plus à apporter d'animaux, on n'a plus à offrir de bêtes, on n'a plus à poser ce genre de gestes pour obtenir le pardon. Jésus est ce parfait souverain sacrificateur. Il est le sacrificateur unique et parfait. Il n'y a plus qu'un seul sacrificateur, une seule personne par laquelle nous allons à Dieu et par laquelle nous offrons à Dieu. Et ce sacrificateur est un sacrificateur parfait. Les sacrificateurs humains offraient des offrandes pour eux-mêmes, pour leurs propres péchés, mais Jésus est parfait. Jésus n'a point commis le péché, il est le grand sacrificateur de notre alliance. Il est notre médiateur avec Dieu. Et donc, cet élément-là, ça change complètement la donne, parce que nous changeons vraiment d'alliance. Ok. Mais du coup, dans la nouvelle alliance, Christ fait de nous des sacrificateurs. Christ fait de chacun de nous des sacrificateurs, des gens dont l'appel est offrir à Dieu, offrir des sacrifices à Dieu. Et ça concerne tout croyant. Tout croyant, par la foi en Jésus, obtient ce statut de prêtre et de sacrificateur. Tout croyant a cette mission d'apporter à Dieu, de se tourner vers Dieu pour apporter. Apocalypse 1, verset 6, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Il nous a rachetés, et il nous a mis à part pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu, des gens qui offrent à Dieu. Hébreux 10, 19 à 22 dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » En d'autres termes, par Jésus, à cause de Jésus, en Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et nous pouvons nous approcher de Dieu en notre qualité de sacrificateur. Nous pouvons nous présenter devant Dieu à cause de Jésus, librement, et nous pouvons aussi nous approcher de Dieu avec cette fonction de sacrificateur. Par Jésus, nous pouvons offrir des sacrifices à Dieu. Au travers de Jésus, nous pouvons offrir des sacrifices qui plaisent à Dieu. Ok. Nous sommes des sacrificateurs, un autre verset qui en parle, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chaque chrétien est un sacrificateur, est un membre du sacerdoce royal. Et cela est un privilège. C'est un privilège. Ce n'est pas une charge insupportable, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. Dieu nous a élevé notre statut. Nous sommes tous devant Dieu, placés comme des sacrificateurs, pouvant nous approcher de Dieu et lui offrir des offrandes. Ok. Et le texte de 1 Pierre 2, 5 dit ceci, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc nous sommes tous appelés à être sacrificateurs qui font quoi ? Qui offrent des victimes spirituelles, donc qui offrent des sacrifices spirituels. Ce ne sont plus des sacrifices humains, ce ne sont plus des objets, ce n'est plus de la nourriture, c'est des sacrifices spirituels que nous offrons à Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus a ouvert la voie au travers de laquelle nous pouvons offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Jésus rend nos sacrifices agréables à Dieu. Parce que je suis en Jésus, lorsque j'offre un sacrifice à Dieu, eh bien Dieu peut pleinement le recevoir. Offrir des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, à cause de Jésus, par le moyen de Jésus. Alors, quels sacrifices devons-nous offrir ? Vous connaissez ça très bien, mais c'est bien de le rappeler. Premièrement, nous sommes appelés, en tant que sacrificateurs, appelés à offrir nos vies tout entières à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir nos corps, ce qui signifie en fait, dans la version originale, offrir nos vies, nos personnes, nos êtres tout entiers. Nous sommes appelés à offrir tout ce que nous sommes à Dieu. Chaque domaine de notre vie, chaque sphère de notre personne doit être offerte à Dieu. Nous offrons tout ce que nous sommes à Dieu. La plénitude de notre vie, la plénitude de notre existence, nous ne gardons rien. Comme le dit le chant, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. J'offre ma personne entière à Dieu. J'offre mes pensées à Dieu, j'offre mon corps à Dieu, j'offre ma façon de vivre à Dieu, j'offre ma façon de parler à Dieu. Dans tout domaine de ma vie, je m'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est le sacrifice le plus valeureux, c'est notre propre personne que nous offrons à Dieu. En nous mettant à part, en vivant pour lui, en vivant pour sa gloire, nous nous offrons à Dieu. Mais aussi, le texte nous dit que nous sommes appelés à offrir à Dieu le sacrifice de louange. Par lui, c'est intéressant, hein, regardez encore une fois, par lui. Tout à l'heure, on avait le par Jésus-Christ, encore une fois ici, par lui, par Jésus, au travers de Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Donc quand je viens, que je me lève le dimanche matin, je viens offrir à Dieu un sacrifice de louange. Ma louange, mon adoration, les mots que je proclame, c'est un sacrifice de louange. Pas seulement le dimanche, hein, aussi quand on le fait chacun chez soi, on offre à Dieu un sacrifice de louange qui lui est agréable. On lui offre une louange, une adoration, et ça réjouit son cœur de recevoir ce sacrifice que nous lui offrons. Le sacrifice de louange des lèvres qui confessent, qui proclament qui est Dieu, qui proclame la gloire et la grâce de Dieu. Ok. Mais aussi, les dons financiers et les dons matériels sont une offrande agréable à Dieu. Nous offrons nos personnes, nos vies, nous offrons le sacrifice de louange, mais nous offrons aussi les dons matériels et les dons financiers. Regardez Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On retrouve encore ça, hein. N'oubliez pas la bienfaisance, c'est-à-dire le bien fait aux autres, et la libéralité, les dons financiers, les dons matériels, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir dans le culte du dimanche, au moment où je dis, tu es grand Seigneur, tu es beau, tu es fantastique. Mais Dieu prend aussi plaisir au moment où je mets mon offrande, où j'offre mon sacrifice à Dieu. Ça lui plaît ça. C'est la raison pour laquelle dans notre Église, le moment du don fait partie du culte. C'est pas après, ça fait partie du culte. J'offre à Dieu à ce moment-là. j'offre un sacrifice à Dieu. Nos dons matériels sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Ça, c'est important à savoir. Et on doit garder ça en tête. Honorer Dieu, c'est aussi avec mes biens. C'est aussi avec mon argent. Et Philippiens 4, 18 dit ceci, « J'ai tout reçu, » donc c'est Paul qui parle, « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc les gens de cette église avaient envoyé de l'argent à Paul, et il dit qu'il a été comblé, et que ce don qu'ils ont fait, ce don financier qu'ils ont fait, est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Quand je fais un don pour une œuvre, quand je fais un don pour le... c'est un sacrifice agréable à Dieu. Et c'est une façon de plaire à Dieu. Je plais à Dieu lorsque je me comporte bien, je plais à Dieu lorsque j'aime mon prochain, je plais à Dieu lorsque je lis sa parole, mais je plais aussi à Dieu lorsque je lui offre des sacrifices qui lui sont agréables. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà lourd, hein, vous aviez du mal. Hein. Je voyais bien que vous étiez déjà tous en difficulté. Ah, ça va. Bien. Eh bien, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Peut-être que ça peut bouleverser parfois des pensées qu'on a, ou ça peut nous... Mais que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses-là et à voir à quel point dans notre vie ça doit être aussi important que le reste. Amen.